Ces incrédules pensent qu'il y a eu une mise en scène de la part de la NASA.
40 ans après, certains pensent encore en effet que les images ont été tournées dans un studio.
Le 21 juillet 1969, en direct sur les écrans de télé du monde entier, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, à moins que ce ne soit un grand mensonge. Et si tout cela n'était qu'une mise en scène, si depuis bientôt 50 ans, les grandes puissances s'étaient secrètement accordées pour construire ce mythe contemporain et dissimuler leur incapacité scientifique et technique à effectivement envoyer des hommes fouler le sol de notre blafard satellite. La prouesse technique de ce moonshot, réalisé en moins d'une décennie à l'initiative du président Kennedy, a suscité quantité de fantasmes conspirationnistes, parmi lesquels on retrouve notamment le réalisateur Stanley Kubrick à la mise en scène de cette esbroufe internationale. Bonjour François Forget.
Bonjour.
Vous êtes planétologue, directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Est-ce que l'homme a vraiment marché sur la Lune?
Alors, si vous voulez mon avis, oui.
Je ne veux pas votre avis, je veux des faits.
D'une part, la remise en question qui a été faite est à mes yeux pas du tout crédible. Ça, c'est vraiment important. Et puis derrière, on a vraiment une conviction. Quand on a travaillé à la NASA, c'est mon cas, que la NASA pourrait pas du tout monter un truc pareil parce que tout le monde est libre là-dedans. C'est pas la CIA, si vous voulez. Puis enfin, on peut avancer quelques preuves objectives, indépendantes. Même si on est complètement parano, on peut se convaincre que ça tient pas, quoi.
On va voir, parce qu'il y a toute une palette, dans les théories conspirationnistes autour de la Lune et dans le haut, c'est-à-dire dans la palette la plus inclusive, la plus puissante. Pour ceux qui considèrent que l'exploit technique est impossible, il est parfois question de la magnétosphère terrestre, par exemple, qui serait impossible à quitter avec un vaisseau spatial, ou l'impossibilité de ralentir, ou l'impossibilité de repartir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, techniquement, c'était impossible en 69, et ça l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui.
Tous les jours, vous utilisez sur votre smartphone le GPS, qui est quelque chose de complètement magique, qui permet de se repérer à quelques centimètres près. Ça fait une vingtaine d'années maintenant. Moi, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué de faire un GPS que d'aller sur la Lune. Quand on regarde un petit peu les arguments des sceptiques de l'alunissage, c'est complètement absurde. C'est-à-dire le fait de traverser ce qu'on appelle la ceinture de Von Allen, c'est toujours exprimé dans ces faits. Effectivement, c'est un endroit où il y a un peu plus de rayonnement.
C'est dangereux
pour l'homme.
C'est quoi la ceinture de Von Allen?
C'est simplement qu'à cause du champ magnétique autour de la Terre, il existe une zone où les particules ionisées du vent solaire sont accélérées, et c'est vrai que ces particules peuvent avoir un effet cancérigène si vraiment vous habitez là-bas. Ce qui fait que là, par exemple, la station spatiale internationale est en dessous, elle est protégée par le champ magnétique, donc on peut y rester 6 mois, 1 an sans problème, et puis on est moins protégé quand on le traverse, et puis quand on va au-delà, vers la Lune, il y en a moins, mais ça, c'est vrai que c'est un petit peu dangereux.
Et on peut tout à fait s'affranchir de ce champ magnétique terrestre, parce qu'on lit aussi beaucoup de choses en disant, en fait, il est impossible de quitter la Terre, on n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir se séparer de ce champ magnétique terrestre qui nous bloquerait finalement autour de la planète, c'est pas vrai?
Enfin là, avec de la physique du 18e siècle, on fait un calcul, je peux vous le démontrer avec un stylo, les fusées, tout ça, ça marche très bien, il n'y a aucun problème pour envoyer des hommes sur la Lune. L'ingénieur de la NASA dans les années 60 ont fait des exploits extraordinaires, c'est magnifique de suivre ce travail, mais il est absolument cohérent, convaincant, il n'y a aucune difficulté.
Alors, pour les théories moins extravagantes, il était notamment hors de question d'imaginer qu'on puisse envoyer de vraies images en direct de cet exploit en 69, ne serait-ce que pour une raison simple, qui est que si ça s'était mal passé, ça aurait été une catastrophe internationale à la face du monde.
Alors, il y a plusieurs versions de ce scepticisme-là. Parfois, on pense que, effectivement, c'est impossible. On est tous d'accord que c'est possible. La communication, même à l'époque, fonctionnait déjà très bien. On pouvait communiquer d'un continent à l'autre avec des satellites relais. Pourquoi pas depuis la Lune? En plus, il y a quelques preuves. C'est-à-dire que les personnes qui utilisaient des radios de manière amateur ont parfaitement détecté le signal radio, voire les images.
On utilisait encore de la pellicule pour faire des films. Donc, il n'y avait pas encore de réseau, de numérisation. Elles étaient envoyées comment, ces images, depuis la Lune?
Non, il y avait déjà la télévision. Donc, on les codait. Comme on fait maintenant, c'est plus analogique, si on part rentrer dans les détails. Donc il y avait une antenne sur tous ces engins-là, une antenne Baguin, Grandguin, tout ça est bien connu. Et on récupérait ça sur Terre quand même avec des assez grands radiotélescopes qui étaient autour de la Terre. Mais parfois, une version de ce scepticisme-là va dans le sens inverse, en disant les images étaient tellement mauvaise qualité que c'est la preuve qu'on voulait tout flouter et tout cacher. En réalité, c'est vrai que les images de Apollo 11, donc le premier alunissage, ne sont pas très bonne qualité. Et le plus étonnant, c'est qu'elles ne sont pas très bonne qualité, non pas parce que la réception depuis la Lune n'était pas très bonne, c'est que l'encodage qui a été fait depuis l'antenne de réception où l'image était très bonne vers le reste du monde, lui a affecté l'image. Regardez les images qui ont suivi. Alors Apollo 13 n'a pas fonctionné, mais à partir d'Apollo 14, puis surtout les trois missions Apollo 15, 16, 17, là les images sont fantastiques et ils sont restés trois jours tous ces gens-là. Donc non, il y a beaucoup d'informations.
C'était un vrai direct, c'était pas un léger différé?
Alors, il y a Stanley, j'ai différé parce que la Lune a une seconde lumière, donc la radio vient. Non, je crois que c'était en vrai direct, surtout pour Apollo 11. Pour le reste, comme j'ai dit, d'abord, les gens ne regardaient pas toujours tout en direct. Enfin, il n'y a vraiment rien là-dedans. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que actuellement, vous pouvez aller, la NASA fait un gros travail de reconstruction historique, vous pouvez retrouver toutes ces images qui sont magnifiques. C'est vrai qu'il y avait un risque, la NASA était consciente de ça. Apollo 13 a été une émotion importante parce qu'on a eu peur que les astronautes meurent. Il y a eu des morts, notamment sur le projet Apollo 1, donc ils sont morts sur Terre. Mais oui, il y avait une émotion qui allait avec ça.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de mise en scène par Stanley Kubrick, comme on a pu l'entendre, qui aurait utilisé les plateaux de 2001 Odyssée de l'espace pour reconstituer ces images.
Cette théorie-là, elle a pas mal remonté à l'époque d'un film assez étonnant de Peter Yam qui s'appelle Capricorn One, qui date de 78, donc 10 ans plus tard, et qui montre pour le coup vraiment un montage comme celui-là pour les astronautes qui vont vers Mars. C'est un film assez amusant, il est un peu daté, mais il est assez amusant. Et puis derrière, souvent, quand vous regardez les sites un peu conspirationniste sur ce sujet, on prend des images de la Lune, on dit ouais, c'est pas possible. Par exemple, on dit ouais, le drapeau américain.
Voilà, le drapeau, il devrait pas flotter parce qu'il n'y a pas de vent sur la
flotter.
Lune.
Alors en fait, on voit très bien qu'il y a une barre qui le tient. Et moi, à l'inverse, ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois que je lis ces remarques-là, c'est assez intéressant, je me dis mais non, mais si c'était l'inverse, je serais tout à fait surpris. Les gens disent ah, le drapeau a l'air d'osciller dans le vent. Pas du tout, il est juste mal repassé. Et moi, je dirais, si le drapeau avait été très bien repassé, j'aurais trouvé ça louche, comment ils auraient fait. Inversement, les gens disent oh, on ne voit pas les étoiles dans le ciel. Évidemment, quand vous êtes sur la Lune, vous avez le soleil extrêmement fort, il n'y a pas d'atmosphère pour l'atténuer, qui éclaire la surface. Bref, tous ces arguments mis en avant sur les sites visuels, là vraiment ils ne tiennent pas.
Il n'y a pas de cratère formé par l'alunissage du module lunaire, alors qu'il y a bien une empreinte de pas, François Forget.
Mais on ne voit pas de cratère évidemment, parce qu'il atterrit doucement avec ses rétrofusées, alors il n'y a pas d'impact. Par contre, on voit assez bien un halo formé par l'éjection des poussières, notamment le site d'Apollo 15 se voit très bien. Et là, ça c'est un bon point ce que vous dites là, parce que c'est une preuve objective. Par exemple, la sonde de Lunar Reconnaissance Orbiter a parfaitement pris des photos des sites d'atterrissage, on voit les traces de pas. Alors vous allez me dire, bah oui, mais évidemment, c'est un satellite de la NASA, donc ils ont pu falsifier les images. D'abord, je dois vous dire que je connais pas mal les équipes qui travaillent là-dessus, équipes universitaires et indépendantes. Mais je pourrais ajouter qu'on voit pas mal, moins bien qu'avec Lunar Reconnaissance Orbiter qui avait une caméra extrêmement haute résolution, mais il y a eu d'autres missions autour de la Lune, et toutes ces missions ont des caméras, des images à moins bonne résolution, mais par exemple, on voit très très bien le halo autour du site d'atterrissage d'Apollo 15. Ça, c'est, je pense, une preuve objective.
Une dernière question, il y a aussi des preuves matérielles de ces missions lunaires, notamment, aujourd'hui, on a ramené de la roche lunaire.
Ça, c'est un argument objectif aussi, parce que beaucoup d'analyses ont été faites par des chercheurs étrangers, des laboratoires indépendants, et je vois mal comment la Lune aurait pu falsifier ces éléments. Alors d'autres peuvent dire « Ah, mais ils ont envoyé des robots ramasser les échantillons ». D'accord, mais c'est quand même plus de 400 kilos, il faut un gros robot, et ça on en aurait entendu parler.
Si on est capable d'aller sur la Lune, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable d'aller sur Mars finalement ?
Alors on est capable d'aller sur Mars. Pour aller sur la Lune, il a fallu on était dans les années 60, c'était la guerre froide, il fallait que les États-Unis prouvent qu'ils n'étaient pas qu'une nation de cow-boys, mais que comme l'image que montrait l'URSS à l'époque, il fallait montrer qu'ils étaient aussi techniques, scientifiques. Et ils ont utilisé ce qu'on appelle la soft power pour utiliser la conquête de la Lune, entre guillemets, pour montrer qu'ils étaient plus forts, peut-être même que l'URSS. Donc ils ont mis des moyens considérables. Ils ont multiplié par 10 le budget de la NASA. Et si on multipliait par 10 le budget de la NASA maintenant, on pourrait assez rapidement et assez facilement envoyer des hommes vers Mars. Et donc il faut faire tous ces développements complexes qui ont été faits pour la Lune, encore plus complexes pour Mars. Un vaisseau spatial pour faire voyager les hommes pendant 6 mois, atterrir sur Mars, c'est difficile, repartir de Mars, la gravité est plus forte que sur la Lune. Ce sont là des centaines, au moins des dizaines de milliards de dollars, mais on va aller vers Mars. En tout cas, on peut aller vers Mars si on met les moyens.
Merci beaucoup François Forget, je rappelle que vous êtes planétologue, directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.